Chapitre 4. Le lien au niveau de l'âme. L'âme est définie ici comme le siège de la volonté, de l'intelligence et des émotions. Elle est donc une composante essentielle de notre personnalité et, par conséquent, de l'alliance entre époux. L'amour, dénommé philéo en grec, Nouveau Testament, est en rapport étroit avec l'âme. Il signifie « aimer d'amitié ». L'une des amitiés pures et fortes des plus célèbres dans l'Écriture est celle qui unit David et Jonathan. Elle est décrite ainsi. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. 1 Samuel 18, versets 1 et 3. Bien des couples ne saisissent pas la différence entre l'amour agapé et l'amour philéo. Le premier est inconditionnel. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Alors que le second dépend directement de nos choix quotidiens. Jésus n'a pas hésité à dire à ses disciples « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, verset 14. Les proverbes soulignent également ce côté conditionnel. Si l'on veut gagner l'amitié du roi, il faut aimer les intentions pures et les paroles aimables. Proverbe 22, verset 11. Confondre ou ignorer ces deux aspects de l'amour tend à alimenter une négligence commune à tant de couples, celle de ne pas continuer à nourrir leur amitié. Lors des fréquentations et des fiançailles, celle-ci est entretenue par mille petits soins, repas intimes, longues heures de promenade, divertissements communs, téléphone et correspondance intense, etc. Une fois mariés, les époux, souvent fatigués, ne se croisent que matin et soir, économisent sur les sorties à deux et se déchargent de toutes sortes d'obligations sur les week-ends qui se transforment parfois en course contre la montre. Malgré cela, ils croient que l'amour agapé, ou l'amour éros, attirance physique, suppléera à leur amitié. Ils tiennent ouvertement ou secrètement ce genre de raisonnement. Il ou elle doit continuer à m'aimer, à être mon ami, parce qu'il ou elle est chrétienne ou chrétien. Ou encore, nous nous aimons automatiquement, puisque Jésus est notre Seigneur. L'amour agapé, décrit en Corinthiens 13, et dont nous parlerons au chapitre suivant, ne périt jamais, bien qu'on puisse le perdre ou l'abandonner. Mais Philéo, lui, peut tomber malade et mourir. L'amitié est comme un feu. Elle a constamment besoin de combustible pour subsister. Philéo sera fort ou chétif, bien nourri ou affamé, selon nos choix journaliers. C'est souvent Philéo qui fera le contraste entre des journées pénibles et tendues et une atmosphère de confiance et de confidence réciproque. C'est cette amitié qui, entretenue, est si belle et si frappante chez les couples qui ont su la cultiver. C'est elle qui, après 20 ans de vie commune, est bien plus grande qu'à ses débuts. C'est elle qui suscite la complicité, l'humour, la prévenance, la communion de pensée, la confiance et la détente ensemble. C'est encore Philéo qui fera la différence au niveau de l'ouverture à l'Évangile d'un époux ou d'une épouse non-croyante quand l'un des partenaires est venu à Christ après le mariage. Le monde du cinéma, et même de l'instruction, semble presque totalement étranger à cette valeur. On veut nous faire croire que l'homme est, en quelque sorte, le cousin du singe, évolué mais infidèle, qui trouve son épanouissement dans des échanges sexuels instinctifs où l'amitié n'est que secondaire et certainement provisoire. Trop peu de couples, même si la planète en compte 10 millions, démontrent le contraire. Nous sommes appelés à épouser un ami ou une amie et à cultiver cette amitié à vie. Dans le couple, l'amitié est une valeur en soi que ni les relations conjugales ni même le ministère exercé en commun ne peuvent remplacer. Dieu n'a pas établi l'homme et la femme dans une chambre à coucher ou dans un temple, mais dans un jardin. Le temple symbolise l'adoration, le service, la discipline. Mais le jardin parle de paix, de parfums, de couleurs, de paysages, de fleurs, de fruits et d'amitié. Quand Dieu nous donne le pouvoir de devenir ses enfants, il nous accorde aussi l'entrée dans celui-ci. Pour cette nouvelle vie, à deux, comme il l'a fait pour Adam et Ève, Dieu veut nous confier un jardin rempli de merveilles qui ne demande qu'à être gardé et cultivé. Le serpent cherchera à nous en priver. Beaucoup de couples regardent en arrière et se souviennent avec nostalgie de leur début de relation baignée d'amour où, ensemble, ils respiraient l'innocence et le bonheur. Que s'est-il donc passé? Ils n'ont pas tenu compte des trois enseignements que le Créateur et architecte a donnés au couple pour gérer leur jardin. Le garder, le cultiver, ne pas manger les fruits défendus. Qu'est-ce qui peut tuer Philéo? Parmi plusieurs causes possibles, en voici quelques-unes. Cesser complètement, au niveau du temps et de la qualité, de nourrir l'amitié. Contredire l'autre sans cesse. Souligner chacune de ses erreurs. Se moquer de lui intérieurement. Se négliger physiquement. Aboyer au lieu de parler. Permettre aux enfants de se servir des divergences entre les parents comme d'un levier pour les dresser l'un contre l'autre. Cesser de pratiquer le pardon, la prière et la sanctification. Adam et Ève n'étaient pas plus obligés de suivre Satan que vous de tuer quelqu'un avant ce soir. Ils avaient, comme vous et moi, tout ce qu'il faut pour garder la bénédiction, la cultiver et résister aux destructeurs. Votre mariage peut merveilleusement réussir et devenir une aventure qui traversera les décennies en grandissant en beauté et rayonnement. Il y aura des périodes critiques, de fausses pistes alléchantes, des suggestions aussi tentantes que démoniaques, mais le Seigneur de la vie et du mariage saura vous conseiller. Le bon berger est encore et toujours le vrai rempart quand le loup rôde. Si vous restez à son écoute, vous jouirez dans son jardin de fruits abondants et délicieux et de courants désaltérants. Comme au commencement, Dieu aime toujours s'y promener avec l'homme et la femme créés à sa ressemblance. Genèse 3, verset 8. Pour que l'amitié s'épanouisse et subsiste pour la vie, il faut non seulement en comprendre le fonctionnement et les exigences, mais aussi les fondements. Sans prétendre que la liste soit complète, voici quelques-uns. Réfléchir avant d'agir. L'amitié ne peut être ni forcée ni exigée. Elle demande un élan vers l'autre, une ouverture de cœur et du temps. Elle est humble et peut disparaître sans qu'on y prenne garde, si le tourbillon des soucis de la vie ou l'amour de l'argent viennent l'étouffer. Il est vrai que toute vie conjugale peut être restaurée par le Seigneur, et j'espère en ce sens que, parmi mes lecteurs mariés, beaucoup trouveront dans ces lignes des principes simples et efficaces pour nourrir ou guérir leur amitié. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, j'aimerais par ce chapitre souligner une évidence. Il est bien plus facile d'être l'ami ou l'amie de telle personne que de telle autre. Épouser quelqu'un parce qu'il est très beau et très spirituel ne suffit pas. On dit que l'amour est aveugle. On devrait plutôt dire que le fait d'être amoureux aveugle. Pourquoi? Essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce que les défauts de l'autre semblent amoindris ou invisibles, alors que ses qualités sont grossies à la loupe. Ensuite, parce qu'en étant amoureux, chacun se présente sans effort sous son meilleur jour. Mais on épouse quelqu'un de différent de soi, qui, par exemple, mange beaucoup plus ou beaucoup moins, est plus soigneux, fait moins de bruit, pleure pendant que l'un rit et rit pendant que l'autre pleure, etc. Faire l'autruche en mettant sa tête dans le sable et en refusant toute analyse est un jeu dangereux. Un homme naïf croit tout ce qu'on lui dit. Un homme prudent n'avance pas sans réfléchir. Proverbe 14, verset 15. J'aurais envie de dire à ceux qui veulent se marier sans réfléchir, « Allez-y, je ne peux rien pour vous, mais vous avez autant de chances que le hasard vous rende heureux que vous en avez de partir de nuit sans carte sur des routes de campagne inconnues et d'arriver à bon port. Cependant, si vous avez lu ce livre jusqu'ici, c'est parce que vous croyez qu'un mariage réussi se prépare. Jésus a explicitement souligné que l'examen d'un projet à tête reposée est absolument normal et conseillé, conformément à Luc 14, versets 28 à 30. Une entreprise ou une école analyse en général méticuleusement toute candidature avant de prendre sa décision, même pour un projet à court terme. Combien plus de personnes qui envisagent de se lier intimement pour la vie devraient-elles en toute liberté s'asseoir et réfléchir avant de s'engager? Mais comment discerner? Prenons l'exemple d'un ferryboat sur lequel vous vous proposez de monter. À son approche, sans être professionnel, vous voyez bien qu'il n'est pas parfait. Quelques taches de rouille et marques d'usure sont là pour en témoigner. Pourtant, votre confiance globale dans sa capacité de vous transporter vous permet d'embarquer en toute sérénité. J'espère cependant que vous ne monterez pas à bord si la coque est trouée ou que le navire a une inclinaison anormale. Il en est ainsi pour le mariage. Ne vous engagez jamais si les signes de naufrage sont importants. Certaines personnes, comme pour le bateau percé, ont besoin de réparations sérieuses avant d'envisager le voyage au long cours qu'est le mariage. Face à cela, beaucoup posent la question. Une personne ne peut-elle changer par la suite? Les changements positifs ne sont possibles que si la vie est considérée comme formatrice et la sanctification comme un but consciemment recherché. Comment se fait-il qu'un fiancé courtois, généreux et serviable puisse se transformer en mari vulgaire, avare et exigeant? Comment se fait-il qu'une fiancée ravissante, souriante et attentive puisse se transformer en femme négligée, grincheuse et bornée? Simplement parce que la tendance humaine naturelle produit, avec le temps, une dégradation des mœurs. Le laisser-aller conduit à une perte des valeurs, comme la maîtrise de soi, la qualité du langage, la courtoisie, le service et la créativité. Pour progresser, notre foi doit être nourrie, entretenue, encouragée et corrigée. Pour le chrétien, les progrès, c'est-à-dire les changements positifs réels, sont possibles. Nous tous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à son image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Applique-toi, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4, verset 15. Mais il faut le souligner, trop souvent, ceux qui fréquentent se nourrissent d'illusions, au lieu de se poser honnêtement la question. Suis-je prêt ou prête à vivre toute ma vie avec cette personne telle qu'elle est? On s'obstine à vouloir absolument redresser le bateau pendant le voyage, au lieu de reporter le départ. On compte naïvement sur un coup de baguette magique qui, on ne sait trop quand ou comment, transformera un vice en droiture. Apprendre à se connaître. Vivre à deux est une école de caractère incontournable. Il y a des habitudes, des coutumes, des traits de caractère, des forces et des faiblesses chez notre futur conjoint que nous devrons accepter ou qui nous feront renoncer au mariage. Chacun peut y réfléchir à l'aide de cette petite échelle suivie chaque fois d'un exemple. Doit changer pour la survie du couple, une tendance à l'infidélité. Doit changer, au moins en partie, un niveau de vie inadapté aux revenus. Serait précieux de changer, une paresse proverbiale. Devrait s'adapter à l'autre, aime dormir la fenêtre grande ouverte. Changera peut-être, mais sur une très longue période. Caractère anxieux et impulsif. Ne changera jamais et doit être accepté. Mesure 2,14 m. L'idéal est que chacun prenne ses considérations pour lui-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens 11, verset 31. Par exemple, une personne constamment endettée devrait avoir la sagesse de faire l'impossible pour assainir sa situation afin de ne pas entraîner son futur conjoint dans une débâcle financière. Comme nous le verrons au chapitre suivant, la vie spirituelle est la base de tout. Mon ami a-t-il ou a-t-elle une expérience chrétienne, superficielle, authentique, riche et croissante? Qui est-il ou qui est-elle vraiment? Il y a des choses que l'on découvre au fur et à mesure des rencontres. Attention, l'amitié devra s'épanouir alors que les sentiments amoureux fluctueront. Répondre aux questions qui vont suivre, en croyant qu'on sera chaque jour follement amoureux l'un de l'autre, est insensé. Michel-Ange a dit « Ce sont les détails qui font la perfection. » Mais la perfection n'est pas un détail. La vie à deux se compose d'une multitude d'éléments qui se conjuguent, se complètent ou s'opposent. Je vous invite donc à considérer les lignes qui suivent comme autant de briques disponibles ou non pour l'édifice qui devra abriter la plus belle amitié humaine de votre vie. L'estime réciproque. Me traite-t-il ou me traite-t-elle avec égard? Aime-t-il ou aime-t-elle ma famille? Aime-t-il ou aime-t-elle mes amis? Est-il ou est-elle fier de moi quand il ou elle me présente à ses proches? Quelle est sa vision de la sexualité dans le couple? Le cadre familial. Dans quel pays, région, ville, village aimerait-il ou aimerait-elle vivre? Dans quel environnement social? Au sein de quelle famille spirituelle? Combien d'enfants aimerait-il ou aimerait-elle avoir? À quel rythme? Quelle est sa pensée sur la régulation des naissances? Si par la suite nous découvrons que l'un de nous deux ne peut avoir d'enfants, qu'envisageons-nous? Comment voit-il ou voit-elle l'éducation des enfants? Comment voit-il ou voit-elle les questions de santé et d'hygiène en général? Comment voit-il ou voit-elle la relation avec nos deux familles? Aime-t-il ou aime-t-elle ma cuisine? Le sens moral. Le contenu de ces paroles est-il plutôt négatif, pauvre, constructif, encourageant, réfléchi, simple et profond? Son langage est-il vulgaire, honnête, aimable? Sa sensibilité envers autrui est-elle faible, bien développée, compréhensive, attentive? Ses relations avec autrui sont-elles amères, tendues, aisées, conciliantes? Sa présence auprès d'autrui est-elle tolérée, appréciée, recherchée? Sa volonté de servir est-elle peu développée, en dents de scie, constante, d'une grande maturité? Son sens des responsabilités est-il peu développé, croissant, digne de confiance? Son attitude face à l'autorité est-elle plutôt rebelle, saine, coopérative? Sa présentation personnelle est-elle choquante, inadaptée, avenante, plaisante? Son éthique dans les affaires est-elle peu scrupuleuse, ferme, plus importante que le profit? Son humour est-il comme une arête au travers de la gorge, acceptable, agréable, génial? Le caractère. Quelle est son attitude dans le stress et la pression? Est-il, est-elle, stable émotionnellement? Est-il ou est-elle flexible, conciliant, têtu, borné? Aime-t-il ou aime-t-elle plutôt vivre dedans ou dehors, rester à la maison ou bouger? Est-il ou est-elle plutôt réservé ou bavard? Est-il ou est-elle plutôt discrète ou bruyante? Est-il ou est-elle plutôt perfectionniste, soigneux ou négligé? Est-il ou est-elle plutôt vantarde, humble ou effacée? Est-il ou est-elle généralement ponctuelle ou en retard? L'éducation et la culture. Notre éducation est-elle semblable, complémentaire, opposée, aux antipodes? Notre niveau d'étude est-il identique, complémentaire, très différent? Nos racines culturelles sont-elles proches, différentes, très éloignées? Un mariage entre des personnes de continents différents demande une préparation plus conséquente. L'un des deux vivra certainement à des milliers de kilomètres de sa famille, de ses amis d'enfance, de ses habitudes culinaires, climatiques et sociales. Il devra parfois apprendre une langue difficile qui deviendra celle de ses enfants. Le travail. Son travail est-il pour lui ou pour elle un problème? Chômage, incapacité, une corvée à éviter à tout prix, ennuyeux au possible, une obligation tolérée, bien acceptée, intéressant, passionnant, sa vie, sa drogue? Aime-t-il ou aime-t-elle volontiers rendre service? Comment envisageons-nous de répartir le travail à l'extérieur? Comment envisageons-nous de répartir les tâches ménagères? Aime-t-il ou aime-t-elle le bricolage? Comment gère-t-il ou gère-t-elle un projet? Commence mais ne termine pas, va jusqu'au bout, est capable d'entraîner les autres? Est-il ou est-elle coopératif ou coopérative dans le travail en équipe? A-t-il ou a-t-elle des capacités à diriger? A-t-il ou a-t-elle un esprit d'initiative? Quelle est sa condition physique et sa santé? L'argent. Quelle est sa philosophie financière? Quel niveau de vie envisage-t-il ou elle sur le plan de l'habitat, de la nourriture, des vêtements, du ou des véhicules? Comment envisage-t-il ou envisage-t-elle l'équilibre entre générosité et sagesse? Comment envisage-t-il ou envisage-t-elle le paiement des factures, à réception, à échéance, à crédit, sous la menace? Ce domaine bien préparé évitera nombre de tensions malheureuses qui sont le lot de trop de familles. Le repos et les loisirs. Comment envisage-t-il ou envisage-t-elle des vacances? Où, à quel rythme et dans quel cadre? Comment envisage-t-il ou envisage-t-elle les jours de congé et les fêtes? De combien d'heures de sommeil a-t-il ou a-t-elle besoin en moyenne? Quels sont les sports, de balle, d'adresse, d'athlétisme, de compétition, de l'extrême, en rapport avec l'eau, la neige, la montagne, que nous exercerons ensemble? À quel rythme? Quels sont ceux que nous exercerons séparément? À quel rythme? A-t-il ou a-t-elle d'autres centres d'intérêt ou hobbies? Les arts, le football, le shopping, les collections diverses, le bricolage, l'informatique, les voyages, etc. Avons-nous des amis en commun? On épouse une personne qui a la même valeur que soi, mais qui est différente. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. La femme est l'égale de l'homme, et l'homme est l'égal de la femme, mais tous deux sont très différents. Mélanger les notions d'égalité et de conformité est source de frustration sans fin, de blessures profondes, de conflits épuisants, interminables, et, par avance, voués à l'échec. Il est évident que la femme a été exploitée, volée et humiliée par l'homme dominateur et jouisseur, et qu'elle l'est encore aujourd'hui. Un saint combat contre cette injustice séculaire n'est que légitime. Cependant, la guérison ne se trouve pas dans la masculinisation de la femme ou la féminisation de l'homme, mais dans l'épanouissement spécifique de chacun. Une femme pleinement consciente de sa valeur et de sa féminité sera, à mon avis, infiniment plus heureuse que celle qui lutte sans répit pour un conformisme avec le sexe masculin. Si un homme cherchait à être honoré par les femmes en se féminisant, il ne ferait que s'enliser dans une lutte sans espoir. Le contraire est tout aussi vrai. Un homme ou une femme, heureux, heureuse et fier de l'être, provoque le respect. Celui que l'homme porte à sa femme, et réciproquement, renforce leur bonheur d'être différent et complémentaire, tout en étant de valeur égale. Quelqu'un a-t-il jamais douté qu'un fils ait la même valeur que son père? Ce serait ridicule. Sont-ils identiques pour autant? Non. Ont-ils les mêmes fonctions et talents? Rarement. Il en est de même pour l'homme et la femme. S'il est vrai que la femme a été tirée de l'homme, l'homme né par la femme. conformément à 1 Corinthiens 11, verset 12. L'Écriture affirme qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, au sens de comparaison, de valeur, mais que tous sont un en Christ. Galates 3, 28. Le foyer doit-il pour autant avoir deux têtes, comme le voudraient certaines législations? Non, l'époux est appelé à en prendre la direction et l'épouse à en être le cœur. Voir Éphésiens 5, 23 à 28 et Proverbe 31. Le jeune homme et la jeune fille se savent évidemment différents physiquement, mais même si la plupart admettent en théorie qu'ils sont tout aussi différents psychiquement, beaucoup n'en sont pas vraiment convaincus. Soit ils ne le croient pas, soit ils l'ignorent totalement. Répétons-le encore ici. Le piège est de vouloir absolument aimer son mari comme s'il était psychiquement une femme, et d'aimer sa femme comme si elle était psychiquement un homme. Dans ses lettres, l'apôtre Paul exhorte 4 fois les maris à aimer leurs épouses, mais il exhorte les épouses à estimer et respecter leurs maris, ce qui montre bien que les défis ne sont pas identiques. Que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi, que chaque épouse estime et respecte son mari. Éphésiens 5, verset 33. Plus ces différences seront comprises, acceptées et intégrées, et plus elles seront réellement enrichissantes, plus elles seront ignorées, niées ou écrasées, et plus elles seront source de frustration. Sans prétendre qu'elles sont absolues, voici quelques-unes des particularités féminines et masculines. La femme a surtout besoin d'être aimée, l'homme a surtout besoin d'être apprécié. La femme pense davantage aux détails, l'homme pense plutôt globalement. La femme a besoin d'être comprise et acceptée dans ses sentiments. L'homme a besoin d'être compris et accepté dans ses plans. La femme se concentre plus facilement sur le présent et le futur immédiat. L'homme se concentre plutôt sur des projets à moyen et à long terme. La femme est très sensible à l'attention et à la compréhension qu'on lui porte. L'homme est très sensible à sa réputation. La femme a besoin de s'exprimer et d'être écoutée pour se ressourcer. L'homme a besoin de s'isoler pour arriver au même résultat. Lors d'un déplacement, la femme se concentre sur la qualité du voyage et la qualité des relations durant celui-ci. L'homme ne s'intéresse souvent qu'au but. Sexuellement, la femme est attirée par les mots tendres qu'elle entend et par le toucher. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Il existe d'excellents livres qui traitent de ce sujet en profondeur et que je vous recommande de lire. Parmi toutes ces différences, il existe une valeur féminine et une valeur masculine qui sont primordiales à l'amitié dans le couple. Un homme ou une femme qui, selon Dieu, se sent appelé au mariage, tout en éprouvant des difficultés à créer une relation, devrait particulièrement tenir compte des lignes qui suivent. Une valeur essentielle à la femme, la sécurité. Sans elle, Philéo se flétrira. Pour être source de sécurité, l'ami, le fiancé ou le mari devra être digne de confiance. Bien que cette qualité englobe toute sa personnalité, relevons 3 domaines importants à cultiver. A. La parole. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Conformément à Matthieu 5, verset 37. Vivre en sécurité et être l'ami d'un homme qui ne tient pas parole est un défi insurmontable et démoralisant pour la femme. Il faudrait écrire un livre sur ce sujet. Disons simplement que l'instabilité, les volte-face, les projets annulés, les promesses non tenues et l'improvisation adulée ou montée en épingle gangrènent la confiance et donnent le mal de mer à Philéo. Dieu est un roc, il est un père. Le jeune homme qui se prépare au mariage doit rechercher la stabilité en lui. Celui qui comprend que Dieu approuve et honore une conduite stable et des paroles vraies sera gardé de spiritualiser à tort une vie instable. Il sera source de sécurité et de bonheur pour son futur foyer. B. Les actes. Sois un modèle en parole, en conduite. 1 Timothée 4, verset 12. Nos actes confirment ou détruisent nos paroles. Ce que nous sommes influence davantage ce que Dieu nous confie que ce que nous disons. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi. Il est pire qu'un incroyant. 1 Timothée 5, verset 8. Celui qui est marié cherche à plaire à sa femme. En Corinthiens 7, verset 33. Un mari qui prend soin des siens et cherche à plaire à son épouse, étant un modèle dans ses actes, est une source inestimable de sécurité. Les difficultés ne lui sont pas épargnées, mais son but profond et réel est toujours le bien-être de sa famille. C. Le cœur. Marie, aimez vos femmes de la même façon que Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Éphésiens 5, verset 25. Comment l'a-t-il aimé? En donnant des ordres du haut d'un hélicoptère? En étant dur, intransigeant, impatient et dominateur? Non. Il l'a aimé en marchant devant elle comme un modèle humble, doux et fort, construisant patiemment son avenir, en la rendant participante à son ministère, en la servant jusqu'au sacrifice. Jonathan, fils du roi Saül, est là encore un exemple de vrai don de soi. L'amitié qu'il portait à David a effacé définitivement toute compétition humainement légitime pour le trône royal. Nous retrouvons la même attitude chez Jean-Baptiste quand, interpellé par ses propres disciples au sujet du succès de Jésus, sous-entendu au détriment de leur groupe, il répond « L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. La mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, versets 29 à 30. Cette attitude de cœur démontre la grandeur de la vraie amitié. On entend parfois de brillants discours sur le fait d'être prêt à mourir par amour. Mais pour le sujet qui nous concerne, il est plus important de se préparer à vivre par amour, c'est-à-dire à garder un cœur de serviteur fidèle envers l'épouse que Dieu nous confie. Cette attitude se manifestera non seulement dans les grands choix de la vie, mais surtout dans la conversation, la courtoisie, la gentillesse, les encouragements, les fleurs et autres petits cadeaux offerts, les compliments, les baisers affectueux qui rendront l'atmosphère journalière chaleureuse. Paul, qui pourtant n'était pas marié, a donné à chaque époux une clé qui vaut son pesant d'or. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, verset 28. Cela signifie certainement aussi que celui qui n'aime pas sa femme se fait grand tort à lui-même. Une valeur essentielle à l'homme, l'honneur. Sans lui, Philéo se flétrira. Pour être source d'honneur, l'ami, la fiancée ou la femme devra s'efforcer d'épouser les grands centres d'intérêt de son bien-aimé. L'un d'eux, sinon le principal, est sa profession. Viennent ensuite ses projets et ses loisirs. Elle fait aussi particulièrement honneur à son mari par sa sagesse et sa beauté. A. L'intérêt pour son travail. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Proverbe 12, verset 27. Il est navrant d'entendre certaines épouses se désintéresser du métier de leur mari, au point d'en ignorer jusqu'aux grandes lignes. Le mécanicien sur auto, qui ne peut jamais parler moteur, client ou dernière nouveauté à son épouse, se sentira incompris, pour ne pas dire méprisé. Il aura bien du mal à ne pas être attiré par la belle secrétaire en mini-jupe qui le harcèle de questions techniques durant la pause café. L'homme a besoin d'être apprécié, non seulement dans ce qu'il est, mais aussi dans ce qu'il fait. Honorer un homme sans porter intérêt à sa profession est une illusion à laquelle bien des épouses tentent vainement de s'accrocher. B. L'intérêt pour ses projets. Un homme est comme le capitaine du bateau. Il veille à lui donner une direction qui trouvera son sens en relation avec les meilleures escales et les projets envisagés. Son regard porte au loin. La femme se sent naturellement responsable de la vie à bord, du bien-être de l'équipage des relations et de l'animation. Ces deux responsabilités, plus ou moins marquées et qui peuvent parfois pour un temps être inversées, sont tout aussi indispensables l'une que l'autre. Mais elles demandent un effort conscient d'intérêt mutuel. Sans cela, la conversation de l'un ou de l'autre peut se concentrer à tel point sur son propre centre d'intérêt que chacun finit par parler dans le vide. Si nous n'y prenons garde, le dialogue au sein du couple peut complètement s'éteindre. L'épouse, déboussolée, se demandera alors pourquoi son mari ne dit tout simplement plus rien, à l'exception de quelques grognements bourrus et incompréhensibles. Quand on lui explique qu'il lui suffirait de poser quelques bonnes questions sur la profession, les projets et les loisirs de son mari pour ressusciter le dialogue, l'accumulation de frustrations produites par ce mutisme et cette vie en parallèle est telle qu'elle refuse souvent de faire le premier pas. Philéo peut mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort qui, dans ce cas, est le salaire de l'égoïsme. En vacances avec mon épouse, nous avons conclu un marché. Après le repas, nous sortons prendre le café sur une terrasse sympathique. À tour de rôle, nous prenons la responsabilité d'animer le dialogue par des questions qui rejoignent les centres d'intérêt de l'autre. Quels sont tes rêves pour les 12 prochains mois? Si tu pouvais changer 3 choses dans notre vie de couple, que changerais-tu? Quelle est la personne qui t'a le plus influencé dans ta vie et pourquoi? Quel est ton plus gros souci ou ta plus grande crainte? Qu'apprécies-tu le plus et le moins chez moi? Que puis-je faire pour t'aider dans? Es-tu satisfait, satisfaite de nos amitiés extérieures? Bien souvent, une seule question suffit, non seulement pour ce moment-là, mais pour plusieurs autres sorties et promenades. Il s'en est dégagé des décisions pratiques qui ont porté des fruits à long terme. C. L'intérêt pour ses loisirs. D'autres centres d'intérêt, comme la montagne, la faune et la flore, la photo, la pêche, le sport, l'informatique, peuvent représenter un trésor de renouvellement et de satisfaction pour l'homme, que l'épouse aura parfois du mal à comprendre et à accepter. Trop de couples passent des milliers d'heures, voire des dizaines de week-ends séparés, alors qu'un rapprochement était possible. Mon épouse aime l'eau. Munie d'un simple masque et d'un tuba, elle prend un énorme plaisir à observer les poissons. Personnellement, ce n'est pas mon hobby préféré, et je suis plutôt frileux dans l'eau. Pourtant, c'est devenu pour moi un vrai divertissement de l'accompagner, et le choix de nos lieux de vacances en a été influencé. De son côté, comme parisienne, la marche en montagne n'était pas son fort, et le ski était, pour elle, synonyme de cauchemar. Aujourd'hui, Michel fait avec plaisir une sortie de 5 ou 6 heures de marche et commence à m'accompagner à ski. D'autre part, nous avons trouvé des domaines où ni l'un ni l'autre n'est très accroché, mais que nous pratiquons ensemble avec plaisir. Scrabble, puzzle, badminton, ping-pong, lecture. L'homme est donc honoré quand il se sent compris et épaulé par celle qui est son aide par excellence. Elle sera alors un refuge pour ce mari qui est bien plus sentimental qu'il n'en a l'air. Leur amitié s'en trouvera sans cesse fortifiée. L'épouse est doublement source d'honneur pour son mari, non seulement dans ce que nous venons de souligner, mais aussi par son attitude et son être tout entier. Bien qu'il l'exprime parfois peu ou mal, l'époux qui est fier de son épouse en éprouve un immense honneur, en particulier en ce qui concerne sa sagesse et sa beauté. Une femme de valeur est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Proverbe 12, verset 4. La femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 7. D. La sagesse. La sagesse d'une femme assure la solidité d'un foyer, mais sa sottise le détruit. Proverbe 14, verset 1. La sagesse de la maîtresse de maison est richement illustrée en Proverbe 31, 10 à 31. Elle se révèle dans sa gestion des biens familiaux, ses initiatives, ses achats perspicaces et ses affaires commerciales, son travail accompli joyeusement, ses repas, sa générosité et sa prévoyance. Toutes ces choses lui permettent de sourire face à l'avenir. Elle enseigne avec bienveillance et supervise toute sa maison. Ses fils la disent heureuse. Son mari a confiance en elle et lui donne des louanges. Ses œuvres la louent. Cette description n'est nullement utopique. En fait, si nous ouvrons les yeux, nous découvrons que ce sont bien souvent ces femmes-là qui font qu'un village, une société ou un pays ne tombe pas dans la misère et le chaos. Dieu a donné à la femme des capacités de créativité, de persévérance et de générosité tout simplement extraordinaires. Ce portrait de la femme n'a rien à voir avec celui d'une femme contrôlée, asservie, cloisonnée et limitée, situation que la corruption humaine et religieuse n'a cessé d'engendrer. La soumission biblique est donc aux antipodes de la servilité. Elle est bien plutôt une collaboration de cœur qui donne force et oxygène à la vie de l'époux. La sottise que l'Écriture condamne n'a pas de rapport avec un quotient intellectuel quelconque, mais avec un style de vie. À 5 reprises, elle met en garde contre la femme qui se nourrit de disputes et les provoque par des paroles agressives. Une femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse. Proverbe 19, verset 13, 21, verset 9, 21, verset 9, 21, verset 19, 25, verset 24, 27, verset 15. Et ajoute, la femme insensée est bruyante. Proverbe 9, verset 13. La Bible dit ouvertement qu'il vaut mieux vivre au coin d'un toit ou dans un désert plutôt que de partager sa demeure. Proverbe 21, verset 9 et 19. La folie, elle, est associée à l'adultère et la séduction coupable est comparée à la morsure du serpent. Et la beauté. Loin d'être secondaire, elle est comparée à l'or. Mais sans sagesse, elle devient dérisoire. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Proverbe 11, verset 22. La définition de cette beauté qui honore le mari et contribue réellement à l'amitié dans le couple connaît des nuances aussi variées qu'il y a de personnalités. Mais il est légitime que l'épouse cherche à plaire à son mari. Sans renier sa propre sensibilité, elle saura donner cette touche à sa tenue, sa coiffure, son parfum, en signe de l'amour qu'elle porte à son bien-aimé. Si certains textes sont d'interprétation difficile et ont soulevé de grandes polémiques, il faut reconnaître que la femme est appelée dans l'Écriture à être féminine dans son attitude, son cœur et son aspect extérieur, et que l'homme, parallèlement, est appelé à être masculin, conformément à 1 Corinthiens 11, versets 14 à 15. Un ministre au Congo a vu sa femme revenir d'un séminaire où tout ce qui concerne la manière d'honorer son mari avait été développé. La transformation de son épouse a été si radicale qu'après 4 jours, il s'est exclamé « Si c'est ça le christianisme, alors moi aussi je veux devenir chrétien. » On épouse une personne douée dans plusieurs domaines, mais non dans tous les domaines. L'erreur de certains couples est de croire que leur vis-à-vis est en mesure de combler toutes leurs attentes. C'est ainsi que l'épouse souhaite que son mari soit, pour elle, à la fois un père, un frère, un mécanicien, un plombier, un psychologue et Tarzan. L'époux, quant à lui, espère que sa femme soit aussi une mère, une sœur, une assistante sociale, une infirmière, une manager et Miss Univers. C'est trop lourd à porter. Il y a aussi des communautés qui ont ce genre d'attente envers leur pasteur. Ce dernier a le choix entre les décevoir ou s'écrouler. Le couple n'est pas une entité hermétique et autosuffisante. L'amour doit avoir un parfum de liberté et non d'exigence démesurée, de possessivité et de contrôle. On ne peut pas s'attendre à ce que tous nos besoins soient comblés par une seule personne. L'épouse aura des amis et des activités extérieures où l'époux ne sera pas forcément impliqué et inversement. Tout est question d'équilibre. On épouse une personne qui a des besoins identiques aux nôtres. Si les hommes et les femmes ont bel et bien leurs spécificités, ils ont évidemment des besoins communs. Le principe déjà cité que Jésus tire d'une grande partie de l'ancienne alliance est le suivant. Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Il s'applique assurément au couple. Tu désires être écouté, écoutez-la ou écoutez-le. Tu désires être encouragé, encouragez-le ou le. Tu désires avoir le droit à l'erreur, accorde-le-lui pareillement. Tu désires être respecté dans ton sommeil, respecte le sien. Tu désires qu'il ou elle prie pour toi, prie pour lui ou pour elle. Tu aimerais qu'il ou qu'elle fasse un effort pour te comprendre, fais de même. L'égalité au niveau de l'argent de poche, du budget vêtements, de la qualité de la nourriture, de la liberté d'action et de bien d'autres choses encore, devrait être adoptée dès le mariage et pratiquée comme une norme élémentaire. Il ne s'agit pas de couper les cheveux en quatre, mais d'appliquer un principe inspiré par la justice et l'amour authentique. L'agenda et le porte-monnaie doivent rester au service de l'amitié, ce qui se fait naturellement à ce niveau au cours des fréquentations et des fiançailles doit se poursuivre consciemment dans le mariage. Combien de couples ne savent plus ni jouer, ni rire, ni pratiquer un sport ensemble, parce que l'agenda et le porte-monnaie se sont levés comme des géants tyranniques quelque temps après la fête. Pour un homme d'affaires ou un pasteur, la tendance à donner la priorité à tous ses rendez-vous avant celui qu'il a fixé avec son épouse est réelle. En théorie, on admettra volontiers que l'épouse passe avant les affaires ou la vie de l'Église, mais en pratique, sans résolution ferme, les exigences et les urgences externes prendront vite le dessus. Que faire? Il faut prendre des décisions sérieuses avant d'être pris dans l'engrenage du tourbillon de la vie. Yonggi Cho, pasteur de la plus grande église locale au monde, nous a partagé comment son couple a souffert dans ce domaine, bien qu'en ce temps-là, son église était déjà florissante et comptait 3000 membres. Un jour, il a résolu de réserver quelques heures chaque semaine pour partager son amitié avec son épouse. Il a tenu bon et en récolte les fruits aujourd'hui encore. Prendre rendez-vous avec sa femme ou son mari, s'asseoir, agenda en main, se réserver un week-end avant qu'ils ne soient tous engloutis par les obligations ou gâché par le laisser-aller, est non seulement sage, mais nécessaire. L'épouse porte aussi sa part de responsabilité. Prendre l'initiative d'inviter son mari pour un café, un dessert ou une pizza dans un cadre romantique est une démarche bien trop rare qui réjouirait et étonnerait plus d'un époux.